Le Mag, bonjour à tous. Toujours à propos de Chronique Pirate, la dernière création de la compagnie En Eau Trouble. Elle sera à voir cette création ce vendredi au Théâtre Olympe de Gouges de Montauban. Et toute cette semaine, Rémi Taureau est là, s'entretient avec Paul Balaguet, l'auteur et le metteur en scène de cette pièce. Ce sera pour la deuxième partie de ce Mag du Tarn-et-Garonne. Pour tout de suite, j'ai Catherine Sully au téléphone.
La nuit des pays, CFM.
Le Mag du Tarn-et-Garonne, aujourd'hui à propos de la place de l'enfant, non, des parents dans la scolarité d'un enfant. C'est le thème du prochain café thématique des parents que nous propose l'association Histoire Recyclable de Sept-Fonds. C'est au programme de ce vendredi à partir de 18h15. Et c'est Catherine Sully qui va l'animer, qui est avec moi. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialiste des thérapies familiales et vous allez aborder donc ce sujet, parents, comment trouver sa place dans la scolarité de son enfant. C'est un sujet qui est déjà d'actualité et oui. Qui promet un vaste débat là.
Et oui, j'ai essayé de le faire synthétique hein, parce que nous n'avons que 1h30 avec les échanges. J'ai commencé justement par aborder ce que c'était que la relation hein, parents-école qui depuis... n'interroge pas que les parents depuis des années, hein, mais interroge aussi les pédagogues, les chercheurs, les enseignants, toutes les personnes qui travaillent dans l'accompagnement de l'enfant dans sa globalité. Donc, mais oui, il y a toute une partie un peu historique qui fait que c'était deux espaces aux frontières bien délimitées autrefois et qu'aujourd'hui, on tend vers une coéducation du parent et des enseignants, au plus moins de l'école, de manière à ouvrir un peu ses portes, hein, enfin, qui les a déjà bien ouvertes depuis pas mal d'années. Bien, alors, ce qui sera abordé aussi, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce passage hein, parce que de parents qu'on a toujours souhaité être, on devient aussi un parent d'élève. Et ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on se rend compte que d'autres adultes vont graviter dans l'éducation de nos enfants, dans une instruction à nos enfants qui ne sera pas donnée que par nous, mais qui va être donnée par d'autres adultes avec un système, une institution, des règles, qui seront bien évidemment tout à fait différentes de celles de la maison. Dans le vivre ensemble aussi, c'est ce que l'école apprend à nos enfants, hein, d'être dans un vivre ensemble avec un groupe de pères surtout, et puis ben, tout ce que ça comporte. L'école, c'est aussi se séparer, hein. C'est se séparer de ses parents, parce que ben, c'est grandir, et c'est le plaisir de chacun, c'est de voir grandir nos enfants dans cet épanouissement et cette sérénité.
Alors, on pourrait parler de la place qu'occupent actuellement les instituteurs dans notre société, qui tend à évoluer, tout comme le maire et le curé. Hein. C'était les trois personnes clés dans les villages.
C'est oui, autrefois, oui.
Voilà, c'est plus tellement le cas. Et puis là, actuellement, on est en train de voir tout un tas de trucs par rapport aux lois, à l'école. Les instituteurs non plus ne sont pas contents. L'enfant à sa place dans tout ça, et le parent, alors l'enfant déjà avant tout, est-ce que les enfants sont bouleversés en ce moment?
Peut-être pas plus qu'avant quand même.
Ouais.
Enfin, je pense que ce qui nous bouleverse, c'est surtout notre manière à nous, aujourd'hui, d'investir cette position qui n'était pas la même il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on voulait un épanouissement de la famille, aujourd'hui on a un épanouissement de nos enfants. Qui n'est pas tout à fait pareil. Le regard que pouvaient porter les parents autrefois était bien plus sur comment la famille va s'en sortir, comment la famille va subvenir à ses besoins. Et aujourd'hui, on est plus dans comment on apporte tout ça à nos enfants. Je pense que ça les... Oui, ça les... Je ne sais pas si ça les perturbe ou si ça les met au centre de nos préoccupations, mais oui, peut-être plus qu'avant.
Les parents
sont peut-être plus au centre des préoccupations.
Et les parents qui essayent d'apporter tout ce qu'il faut à leur enfant pour finir par voler de ses propres ailes, c'est lui qui est un petit peu... qui cherche à trouver sa place.
Alors, c'est vrai qu'on est toujours dans une dynamique de perfection, ce qu'on n'atteindra jamais, de toute façon. Donc, à mon avis, ça, ce ne sera pas pour demain, la perfection, et j'espère qu'elle ne le sera jamais, parce que ça ne permet pas, justement, à nos enfants de devenir imparfaits, eux aussi, et de composer avec, avec ce qu'on est et pas avec ce qu'on voudrait être. La thématique, je pense surtout, où c'est important, c'est comment devenir l'allié la vie de l'enseignant de notre enfant, comment notre enseignant peut aussi devenir notre allié pour ne pas avoir cette place. On n'est pas unique pour nos enfants. Il y a plein d'autres adultes qui doivent graviter dans son éducation de manière à l'accompagner dans cette autonomie, au final. Hein.
Et alors,
à être autonome et un adulte responsable.
Vous avez des clés à nous livrer, peut-être, un petit peu?
Déjà de pouvoir commencer à faire le deuil aussi de nous, l'élève qu'on était. Parce que notre relation à l'école ne naît pas comme ça avec nos enfants. Elle commence avec quel élève nous avons été et quel a été notre rapport à l'école. Quel a été notre rapport à nos enseignants? Quel a été aussi le rapport de nos parents avec nos enseignants? Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Et je crois qu'on a déjà à s'interroger et à faire le deuil de ce qui a été notre vécu à nous et qui ne sera pas le leur surtout. Et de ne pas projeter des événements qui ont été de notre histoire sur la leur. Donc c'est vrai que c'est une phase à laquelle on est confronté hein, de toute façon. Et puis d'accepter la différence de notre enfant. Ça va commencer aussi par ça, c'est-à-dire que accompagner notre enfant, c'est accepter qu'il soit unique, pas simplement différent de nous, mais unique. Et que donc, son désir, ce qui va lui plaire à l'école, les matières, n'ont rien à voir avec nous. Et que notre parcours n'aura rien à voir avec le sien, surtout. Donc ça, c'est pas des choses faciles, déjà, au départ.
Hein. Ah, faciles, mais c'est complètement basique, non?
Oui. Oui, mais il n'empêche que inconsciemment, ça se rejoue en nous. Et c'est de pouvoir en prendre conscience. Qui n'a pas dit, je sais pas moi, son enfant, non mais la musique ou le dessin, c'est pas important, par exemple.
Ce qui vient généralement d'une grosse frustration.
Eh bien, ça aurait peut-être. Ça commence déjà par se poser la question quel était notre rapport, nous, à la musique et au dessin. Vous voyez? Pour qu'on puisse tenir ce discours-là. Donc c'est pas voilà pour d'autres parents la musique par exemple qui sont musiciens c'est hyper important. Donc c'est bien notre rapport nous à l'école qui conditionne aussi la manière dont on les oriente. Hein.
Et là, toutes ces clés que vous nous donnez sont largement conditionnées par votre spécialité de thérapie familiale. Alors, ce que je vous propose, Catherine Sully, c'est qu'on fasse une petite pause musicale dans ce mag, et puis après, on parlera un petit peu de cette hypothèse qui veut que les difficultés de l'enfant signalent une souffrance qui peut être celle du groupe, en fait, du groupe familial dans son ensemble, c'est-à-dire l'enfant comme révélateur. Est-ce que je dis des bêtises?
Même si on a pour habitude de pouvoir dire que l'enfant dans un système familial qui peut dysfonctionner se met souvent dans une position de gyrophare, c'est-à-dire de signal sonore à travers tel ou tel comportement qu'il pourrait adopter. Oui, maintenant, je pense que l'accompagnement dans la scolarité, tout du moins de l'enfant, il y a plusieurs enjeux aussi, hein, sa relation aussi à l'enseignant, la relation que le parent a avec l'enseignant. Et pas que un dysfonctionnement de la famille.
C'est pas que la faute des parents. On vous rejoint tout de suite, Catherine Sully, musique
d'accord.
D'abord.
Ok.
Stopped going, the whole world shook, the storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck in darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death to sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look
Le MAG, le retour. On était en pleine conversation avec Catherine Sully. Catherine Sully, psychologue clinicienne et spécialiste des thérapies familiales, qui va animer le prochain café thématique des parents de l'association Histoire Recyclable. Ce sera ce vendredi au foyer Sept Fontois de 18h15 à 20h sur la thématique. Donc, parents, comment trouver sa place dans la scolarité de son enfant? On a déjà eu quelques petites clés, Catherine Sully, pour s'approprier un petit peu cette thématique. Comment est-ce que vous y êtes venue à vous poser cette question?
Alors, c'est une demande de ma collègue, qui est une association qui souhaitait aborder différents thèmes et qui nous a proposé à plusieurs de ses collègues de choisir un thème qui pourrait nous plaire plus qu'un autre pour travailler dessus. Alors, moi, j'ai choisi ce thème-là parce que, peut-être parce que personnellement, j'étais aussi dans des enjeux de parcours sup, de choses comme ça, qui m'ont amené à m'interroger sur quelle était aussi notre place en tant que parents, mais dans la scolarité, tout au long de la scolarité, pas uniquement de la maternelle ou de l'élémentaire, mais aussi de la place qu'on pouvait prendre au collège, au lycée et dans les choix aussi futurs de nos enfants qui deviennent adultes.
Alors ces choix, justement, une des clés que vous proposiez, c'est tout simplement de les laisser faire leur choix, de ne pas essayer, tenter de ne pas influencer nos enfants à travers notre propre perception du monde. J'y vais à petit pas.
Oui, de les amener à découvrir aussi ce qui pourrait leur plaire. C'est-à-dire de leur proposer aussi, pas que des choses qui nous plaisent à nous, mais des choses qui pourraient aussi leur plaire à travers diverses activités ou à travers... ce que j'aime beaucoup aujourd'hui dans l'ouverture de l'école aux parents, c'est aussi ce principe de coéducation. C'est-à-dire de ne pas scinder le milieu de la famille et le milieu de l'école comme étant des barrières infranchissables avec des grilles, comme des portails ou des choses comme ça. De pouvoir laisser aussi rentrer les parents pour qu'on se rende compte aussi que notre enfant à la maison, c'est pas non plus le même à l'école.
Uh-huh.
Et puis, parce que ça c'est du lait, non ?
Ouais.
Et de travailler effectivement comme un couple, aussi bien le couple parent-enseignant peut fonctionner comme un couple homme, enfin père ou mère au sein de l'enfant. Je crois que c'est ça qui est très intéressant dans ce travail de coéducation. Pour les accompagner dans leur bien-être et éventuellement dans une réussite scolaire. Ce qui est intéressant, c'est comment aujourd'hui on peut laisser l'ouverture aux parents à travers des forums de métier, à travers les activités aussi scolaires telles que, moi je me souviens, mes enfants étant plus jeunes, j'avais passé le permis vélo pour pouvoir les accompagner sur leur sortie vélo, l'aptitude de piscine pour pouvoir les accompagner à la piscine. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, l'école a aussi besoin des parents pour pouvoir permettre cette sortie sur l'extérieur des élèves, hein, pour des raisons de sécurité et autres, et d'autorisation. Et je crois que c'est important pour nos enfants de montrer comment on peut s'impliquer. Alors, même si certains parents peuvent avoir peur de ne pas être à la hauteur ou des choses comme ça, enfin, de pouvoir accompagner sur des pique-niques, des sorties scolaires, les apéros à l'école de fin d'année, venir voir le spectacle. Je crois que c'est ce qui permet aussi à l'enfant de voir son parent au sein de son école qui est très important dans sa réussite et son bien-être.
Parce qu'on aurait tendance à poser les enfants à l'école et puis penser que ça y est, c'est fait, et puis qu'il y a, pendant 8 heures, on n'a plus à y penser, quoi.
Voilà, que c'est... et oui. Que c'est leur univers, on a souvent tendance à dire c'est leur univers, mais cet univers, ils peuvent aussi le partager, alors, bien évidemment pas 8 heures par jour, mais avec nous sur des temps ponctuels. Hein. Ce qui était intéressant, la semaine dernière au collège, de mon fils, il y avait le forum des métiers. Et donc, le collège avait demandé à ce que les parents viennent présenter leur métier. J'étais très surprise de voir, parce que c'était en plus un vendredi, en fin d'après-midi, c'était quand même... pas mal fait pour la disponibilité des parents, que très peu de parents avaient répondu à cette demande. Qu'est-ce que ça leur envoyait à eux de venir exposer leur métier, ou est-ce qu'ils n'avaient pas envie d'être intrusifs? Je ne sais pas pourquoi il y a eu aussi peu de parents, mais les enfants ont adoré. Enfin, les enfants étaient ravis de voir des parents dans leur collège venir expliquer leur métier, venir expliquer ce qu'ils faisaient. Ils avaient plein de questions à poser en plus, c'était vraiment très chouette.
Vous allez aborder toutes ces questions et même bien d'autres. Hein. Alors, on pourra vous poser des questions sur le principe de l'homostasie, les non-dits, les pathologies transgénérationnelles, les mythes familiaux. Et on pourra même vous demander si la famille est bien une motocyclette. Alors, tout ça, c'est des sujets que la spécialiste de thérapie familiale pourront aborder lors de ce café des parents. C'est bien ce vendredi. Ça se passe au foyer Sept-Fonds-Toi du côté de Sept-Fonds. C'est organisé par l'association Histoire Recyclable. Et puis, faut savoir que c'est totalement gratuit, que les parents, vous pouvez venir avec les enfants et voir éventuellement les placer entre les mains expertes de la Ludo, qui va proposer pour les enfants tout un tas de jeux. Est-ce que vous pensez que, Catherine Sully, donc, vous pensez que c'est important pour les enfants d'assister à ces questionnements de la part de leurs parents ?
Ah, moi, je trouve ça très chouette.
Fondamentalement.
J'ai déjà trouvé très chouette le principe de la mettre à cette heure-là pour permettre aux parents de venir et aux enfants de pouvoir être, je dirais, encadrés et occupés pour certains, voilà, qui ne peuvent pas faire regarder leurs enfants autrement. Ils ne s'autorisent pas ces sorties-là parce que, par souci de garde ou par souci de c'est trop tard ou autre. Je trouve ça super que ce café parent TD propose un mode de garderie pendant cette intervention. C'est vraiment très chouette.
Oui, ils sont forts, hein, histoire recyclable. Et j'en profite pour annoncer le prochain café thématique. Ce sera le 24 mai. Ce sera à propos des conflits entre enfants. Là, il y a de quoi dire, hein, encore. Pour plus de renseignements, il y a un Facebook, il suffit de tapoter Histoire Recyclable au pluriel, et pour avoir tous les renseignements, pour vous voir, Catherine Sully, donc psychologue clinicienne spécialiste des thérapies familiales. À propos de ce café thématique, parents, comment trouver sa place dans la scolarité de son enfant qui est complètement, absolument actuel, je crois.
Écoutez, j'espère que ce sera une soirée d'échange, parce que je pense que les parents sont pleins de ressources et ont plein d'idées aussi qui peuvent être complémentaire de celle que j'ai pu vous exposer, et que ça sera vraiment ce temps d'échange et de, voilà, et de complémentarité les uns avec les autres qui sera là vendredi soir.
Un grand merci Catherine Sully, et à vendredi alors.
Merci beaucoup, à vendredi, bonne journée, au revoir.
Et juste après la pub, Rémi Torella nous propose un nouvel entretien avec Paul Balaguer. C'est l'auteur et metteur en scène de la chronique Pirate. C'est la dernière création de la compagnie En Eau Trouble qui sera à voir ce vendredi soir au théâtre Olympe de Gouges de Montauban. A tout de suite.
De l'avenue du Père Hugues au lac de la Barthe.
Vous écoutez CFM.
Vous écoutez CFM.
99.4.
Alors, ton fils, il fait quoi après son bac?
Il est complètement perdu et je commence sérieusement à m'inquiéter.
T'as pensé au mercredi de l'orientation chez B2M, le centre de formation de la CCI, 61 avenue Gambetta à Montauban. Il passera un test d'intérêt et un échange individualisé avec des professionnels de l'orientation. C'est en partenariat avec Studirama et Evidentiel.
Ah, extra!
Ça se passe comment?
Sans rendez-vous. Le mercredi 10 avril après-midi, l'équipe de B2M répondra à ses interrogations. Les mercredis de l'orientation, c'est aussi pour les non-bacheliers qui souhaitent trouver des solutions à leur orientation.
Plus de pages, plus d'articles, interviews surprises, votre magazine Cosimag devient SoCosissime. L'édition printemps-été est enfin disponible. Le magazine dédié à l'art de vivre en Tarn-et-Garonne vous inspire. Il vous est offert grâce à ses annonceurs. Habitat, déco, tendance, gastronomie, automobile, loisirs, de la lecture pour toute la famille. Point de diffusion sur www.socosissime.com ou sur Facebook Nathalie SoCosissime.
Hey, salut Fred! Le 20 avril, tous les coureurs de fond et leurs amis viendront à Mirabel. Cette année, on fête les 10 ans. Ça commence par une marche pour avoir chaud aux pieds, et puis une course enfant, une course sur route pour une coupe gravée et un trail de nuit qu'il faudra courir avec une boîte à piles. Préinscription conseillée sur goodrunningmirabel.com pour profiter des tartes flambées et autres boissons. Tout est réuni pour fêter les 10 ans et passer une belle journée ou soirée dans nos coteaux. N'oubliez pas, le 20 avril à Mirabel, une marche, une course sur route et un trail de nuit. À très vite!
CFM à Caylus et dans les gorges de l'Aveyron, 99.4 et 89.2. CFM, le mag, tous les jours,
17h, 17h30.
La vie du Tarn-et-Garonne.
Chronique Pirate par la compagnie Eau Trouble, c'est ce vendredi à 14h et 20h30 au théâtre Olympe de Gouges. On en parle cette semaine avec Paul Balaguer, auteur et metteur en scène, qui, je pense, a dû beaucoup, beaucoup se documenter sur le monde des pirates. Hein. Paul Balaguer, comment vous avez fait votre travail de documentation pour écrire cette pièce ?
Oula, eh bien, ça remonte. Si on est honnête, ça remonte depuis l'enfance, parce qu'on a tous eu des récits de pirates depuis qu'on est petit. Et en fait, tout le monde connaît ou se cherche des choses depuis qu'il est petit sur ce monde-là. Mais en gros, en fait, la vraie documentation, ça a été l'historien Marcus Rediger et Peter Lindenbaum. Ce sont deux historiens américains qui ont récemment fait une énorme révolution dans l'histoire maritime en publiant trois ouvrages qui sont le fruit de 40 ans de recherche dans les archives maritimes, dans les archives nationales, dans les anciennes archives des compagnies marchandes, et qui ont remis au goût du jour l'histoire de l'Atlantique, l'histoire de la mer en fait. Chose qui était, parce qu'on connaît l'histoire de la terre, l'histoire des pays, l'histoire des grands hommes, l'histoire des peuples, mais eux ils ont fait l'histoire de la mer. Et en fait c'est grâce à ça qu'en fait il y a à peu près 15 ans ils ont fait une petite révolution historique en disant voilà en fait les pirates c'est pas du tout ce qu'on croit. Et donc à partir de ces bouquins-là sont maintenant disponibles en France et tout ça, et c'est en découvrant ces livres-là que là, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois une matière historique réelle et en même temps des fictions, des incroyables fictions. Parce qu'on ne sait jamais si c'est complètement vrai ou pas. On ne sait jamais.
Il y a eu des légendes qui ont été créées, vous nous le racontiez l'autre jour, pour faire peur, hein, tout simplement. Et je crois même qu'il y avait une différence qui se faisait entre corsaires et pirates. On doit retrouver ça. Non, les pirates, les corsaires, c'était les pirates qui étaient engagés réellement et qui étaient payés, hein, me semble-t-il, pour créer la zizanie.
Exactement. Ouais. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est les en gros, donc un pirate, c'est un bandit des mers, jusqu'au jour où, par exemple, le gouvernement anglais ou le gouvernement français décide de dire, plutôt que d'attaquer les pirates, je vais l'embaucher, je vais lui donner une lettre de marque et je vais lui dire, tu peux continuer à pirater. Tu fais comme avant, mais à part que maintenant tu n'attaques plus les vaisseaux anglais, parce que maintenant tu travailles pour le roi anglais. Et donc un corsaire, c'est un pirate qui travaille pour un pays. Mais le problème, c'est que les pirates, ils ne respectaient pas forcément les lettres de marque, ils les respectaient un temps. Et puis après, ils finissaient par réattaquer des vaisseaux anglais. Ou alors, c'était les Anglais eux-mêmes qui donnaient des lettres de marque et qui finissaient par dire « Ah, finalement, maintenant que je ne suis plus en guerre avec la France, maintenant, je n'ai plus envie que tu travailles pour moi. » Donc, c'était très flottant, mais en effet, il y a les corsaires sont juste des... Par exemple, un corsaire français est un pirate pour les Anglais.
Et alors, d'où la difficulté peut-être justement de ce fameux procès que vous jouez sur la scène du Théâtre Olympe de Gouges.
Alors, en fait, comment dire, c'est que justement, à l'époque, les procès qui ont été mis pour les pirates étaient des procès très dangereux, puisque les pirates étaient soutenus par les populations des îles. Et donc, les procès ont été très compliqués à mettre en place pour juger des gens qui étaient considérés comme des héros locaux, en fait. Et puisque c'était des gens qui, en fait, faisaient tourner l'économie locale. Mmh. Et puisqu'en fait, pareil, le mythe du pirate qui enterre son trésor, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'un pirate, quand on devient un pirate, on sait qu'il nous reste 2 ans à vivre, maximum. Donc, ce qui fait qu'enterrer un trésor est complètement contre-productif, puisque soit vous allez mourir d'accident, ou de noyade, ou vous allez vous faire arrêter, vous allez vous faire pendre. Donc en fait, les pirates ne gardaient rien, ne thésaurisaient rien. Donc ils faisaient tourner l'économie locale à plein bourre. Et donc ils étaient tout à fait soutenus par la population. Et donc les procès étaient très compliqués pour les gouverneurs. Ça a été très très dur de les transformer en méchants, même si concrètement, ils se sont souvent comportés comme les derniers des moins que rien aussi. Hein. Donc,
Les procès avaient lieu, comme celui-ci, je crois, se passe aux Bahamas. Est-ce qu'ils avaient lieu sur place ou est-ce qu'ils avaient lieu en Angleterre ou en France ?
Ah non, sur place. Ouais. Sur place, parce qu'en fait, les procès étaient au contraire revendiqués comme des événements publics. En fait, où on conviait les gens, et les pendaisons aussi. C'est-à-dire qu'on forçait les gens à venir au procès et on convoquait les gens à venir voir la pendaison pour faire exemple, en fait. Et donc, en fait, oui, il était très important. Très important que les procès se placent sur les lieux du crime, puisqu'ils étaient utilisés par les gouvernements pour affirmer de leur autorité.
Chronique pirate, c'est le titre de la pièce qui raconte un petit peu tout ça et qui va avoir lieu au Théâtre Olympe de Gouges, joué par la compagnie Au Trouble, mise en scène par Paul Balaguet, avec qui on discute cette semaine. À demain, Paul Balaguet.
À demain, au revoir.
Et merci Rémi. Les entretiens retrouvés en podcast sur cfmradio.fr. Juste avant, à qui le tour avec David Aurélien ? Eh bien, voici le journal régional. Belle soirée.